pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Au départ, l'idée c'est d'encourager l'apprentissage d'au moins deux langues vivantes en plus de sa langue maternelle, de renforcer les liens entre les universités des pays voisins et aussi d'ajouter une ligne sur le CV des étudiants avec une expérience à l'étranger. Nous sommes avant même la chute du mur de Berlin en 1985. Jacques Delors est arrivé à la tête de la Commission européenne et c'est sous son impulsion que l'idée est lancée. Il faut quand même attendre 1987 pour que le célèbre programme d'échange étudiant européen voit réellement le jour. Il s'appelle Erasmus, du nom d'un philosophe et humaniste du début du XVIe siècle. Mais c'est aussi un très bel exemple de rétro-acronyme, c'est-à-dire un mot qui n'est pas un acronyme à la base, mais que l'on transforme ainsi en donnant une signification à chacune de ses lettres. Erasmus, c'est un philosophe, mais aussi ipso facto, la contraction de European Action Scheme for the Mobility of University Students. Petit à petit, avec la naissance officielle en 1992 de l'Union européenne, le programme se charge d'une mission supplémentaire, un rêve nouveau, participer à la construction d'une identité européenne, à la fois culturelle et politique, un mode de vie. Des films, des livres, des histoires, dont l'auberge espagnole est l'exemple le plus fameux, renforcent cette volonté ou ce fantasme selon les points de vue. 31 ans plus tard, il est vrai que 5 millions de personnes ont déjà effectué un séjour de mobilité à l'étranger avec Erasmus. La France est derrière l'Espagne et devant l'Allemagne, le deuxième pays qui envoie le plus d'étudiants avec ce programme. On avance aussi le chiffre romantique d'1 million de bébés qui seraient nés grâce au programme Erasmus. Mais quand on sait que l'allocation offerte par le dit programme est seulement d'environ 180 euros par mois, on se doute des problèmes rencontrés par les étudiants qui ne sont pas issus des milieux les plus favorisés. Même si l'État accorde des bourses, le frein économique est radical. D'ailleurs, depuis 1987, seulement 4% des étudiants européens ont pu bénéficier du programme, loin de l'objectif de 20% que s'était fixé l'agence européenne. Aujourd'hui donc dans les pieds sur terre en mode un peu rabat-joie, deux histoires qui racontent les difficultés des jeunes face à Erasmus sur le plan culturel et économique. Une auberge sélective donc, où on ne se marre pas toujours. C'est un reportage de Pauline Peretz.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Camille et j'ai fait des études de langue dans une université de l'Est de la France. Et pour ma troisième année de licence, j'ai décidé de partir en Erasmus pour pratiquer le suédois puisque c'était ma langue principale. Au départ, il était prévu que je parte pour deux semestres dans une petite ville suédoise au sud du pays, mais dans les terres. Quand j'ai décidé d'apprendre le suédois, c'est parce que j'avais une vision vraiment idéalisée de la Suède. Je pensais que tous les défauts que je pouvais trouver à ma vie en France disparaîtraient une fois que je serais en Suède. Je pensais que là-bas, il n'y avait pas d'inégalité, pas de sexisme. Pour moi, c'était vraiment Le pays idéal où tout le monde est heureux et tout le monde peut bien étudier. C'est pour ça que j'ai vraiment mis beaucoup d'espoir dans cette année parce que je pensais vraiment qu'enfin je pourrais me réaliser pleinement sur tous les domaines en fait. Ma première impression, c'est que je ne m'attendais pas du tout à arriver dans l'endroit où j'étais parce que la ville est assez petite et très moderne. Bon, je suis arrivée très tôt, je suis arrivée le matin à l'aube, il y avait encore la rosée. Toute la ville était encore endormie et j'avais une nuit de train dans les pattes, donc c'était un peu compliqué. Je me souviens d'une sensation d'espace vraiment qui à la fois était très agréable et à la fois vraiment désarmante parce que on n'a pas forcément l'habitude d'avoir des rues aussi larges et un tel silence aussi. Dans l'université qui nous accueillait, l'année précédente s'occupait encore du logement pour les étudiants Erasmus, mais comme il y a un gros problème de pénurie de logement en Suède, l'université a décidé de ne plus assurer le logement aux étudiants Erasmus qui devaient désormais se débrouiller tout seuls. Avant de me rendre en Suède, j'avais cherché un logement sur un site internet suédois. Donc un homme qui devait avoir une trentaine d'années m'a dit qu'il louait une chambre de son appartement qui était très grand, qui faisait 60 mètres carrés, donc avec deux pièces. Donc ma future chambre allait faire 20 mètres carrés, ce qui est vraiment très agréable. Mon colocataire n'était pas souvent à la maison parce qu'en fait il était chauffeur de camion et il était très peu loquace et j'ai l'impression qu'il avait en partie sous-loué sa chambre pour rompre peut-être avec une forme d'isolement. Il faisait partie d'une église évangélique et il avait tendance à essayer de m'encourager à faire comme lui. Le dimanche matin, il écoutait la messe à la radio, mais il mettait vraiment la radio très très fort, ce qui me réveillait. Bon, il avait également une très mauvaise image des personnes qui buvaient de l'alcool, ce qui m'a valu de très nombreuses remarques un peu désobligeantes lorsque, avec des amis, on ouvrait simplement une bouteille de vin pour accompagner un bon repas. Ou voilà, c'était pas une consommation excessive, mais même ça était un peu, surtout si ça avait lieu en semaine. Très vite, je me suis rendu compte que la bibliothèque, si elle était si agréable, c'était parce que c'était essentiel pour que les gens continuent à avoir envie d'étudier, même durant l'hiver, parce qu'il y a finalement peu d'endroits où on peut se retrouver. Enfin, il y a des cafés, mais c'est pas forcément évident. Et puis les prix étant ce qu'ils sont en Suède, ça peut vite grimper quand on a un budget étudiant, tout va très vite. Dans la ville où j'étais, il y avait soit des cafés qui fermaient très tôt, enfin il y avait un seul bar dans le centre-ville où j'allais, parce que les autres, il y avait un pub irlandais et une boîte de nuit. Le premier était interdit au moins de 22 ans et l'autre au moins de 25 ans. À l'époque, j'étais trop jeune pour pouvoir y aller. Donc l'accès à l'alcool en fait est beaucoup plus réglementé en Suède qu'en France. C'est un monopole d'État pour ce qui est des boutiques. Donc il y a dans chaque ville à peu près une boutique qui s'appelle Systembolaget et c'est une boutique où on peut acheter des vins, des spiritueux. Mais les horaires d'ouverture de cette boutique étaient relativement restreints. Elle fermait à 14h le samedi. Donc ça demande, mine de rien, beaucoup d'anticipation. Et je me suis rendu compte petit à petit que ça devenait une préoccupation, en fait. Rien n'encourageait à ce que les gens se parle ou échange et surtout avec les Suédois, ça a été peut-être plus difficile par moment. Là-bas, personne ne vous regarde. Les gens s'évitent du regard. Donc, au début, j'ai effrayé des personnes dans la rue ou dans le bus simplement parce que je leur demandais l'heure ou je m'asseyais à côté d'elles dans le bus alors qu'en fait, ça se fait pas parce que d'autres places étaient libres et des choses comme ça. Et on se sent souvent un peu observé. C'est important de suivre les règles, en fait. Par exemple, ces briques de jus de fruits, il faut absolument les plier une fois qu'elles sont vides et qu'on les met au recyclage parce que Si quelqu'un vous surprend en train de vider votre sac de recyclage avec des briques qui ne sont pas pliées, on peut se prendre vraiment une remarque très désagréable parce que ça voudra dire qu'on prend beaucoup plus de place que les autres. Et on n'a pas vraiment le droit de dépasser ces limites. Il y avait un local à vélo à l'extérieur de mon immeuble et un local à vélo à l'intérieur. Le premier était pour les vélos qu'on utilisait tous les jours et le second pour les vélos qui restent plus longtemps. Mais comme le local à vélo de l'extérieur était tout le temps plein, je mettais mon vélo dans celui à l'intérieur. Et une voisine un jour a remarqué que je passais avec mon vélo tous les jours dans le hall de l'immeuble et je me suis pris un sacré savon ce jour-là. Mais tant qu'on n'en a pas fait l'expérience, on se rend pas vraiment compte de ce que c'est qu'une une véritable pression sociale, en fait. Au bout d'un moment, j'ai laissé tomber, en fait. Je me suis vraiment construit une carapace et j'ai décidé de faire comme tout le monde, de plus parler, à part aux personnes avec lesquelles je m'étais liée, et j'étais plus étonnée, je regardais plus les gens dans la rue. J'ai vraiment commencé à faire comme tout le monde fait là-bas, et ce qui m'a vraiment fait partir plus tôt, c'est, je pense, l'hiver et le fait que je me suis rendu compte que je ne pourrais pas pratiquer le suédois comme je l'avais prévu. Et que donc, puisqu'en plus la vie coûtait cher là-bas, plus grand chose me retenait. J'avais pu m'arranger avec mes enseignants qui avaient été très compréhensifs, qui avaient vu que de toute façon je dépérissais là-bas et qui donc m'avaient autorisé aussi à rentrer plus tôt. Et le départ a été vraiment un moment de soulagement. Have to move on. Let the past be done. A little more today, a bit more tomorrow. Oh, you set my soul at ease. France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Emma, je suis étudiante en troisième année d'histoire et l'année dernière j'étais à Berlin pour un échange Erasmus. Je voulais partir de Paris parce que ça faisait 2 ans que j'y habitais et que je trouvais que tout était trop cher. Le logement, la nourriture, les sorties. Et j'avais de Berlin une image un peu idéalisée, je pense, comme d'une ville qui coûtait pas cher du tout, où on pouvait avoir des grands apparts, rencontrer plein de gens hyper intéressants et avoir une vie plus facile avec des grands espaces. Et ça, j'étais un peu surprise parce que le slogan de Berlin, c'est « pauvre mais sexy ». Mais en fait, c'est pas très pauvre. Puis de toute façon, être pauvre, c'est pas sexy. J'ai l'impression que c'est comme une espèce de terrain de jeu pour jeunes qui ont envie un peu de faire des expériences un peu extrêmes ou de se réinventer. Mais jeunes avec pognon, quoi.
Dass sie immer noch auf Ziele im Westen gerichtet sind. Die Ukraine wird
mit Afrikas und die schwarzen Organisationen ANC auf eine gute Straße.
Pour moi, il fallait 500 euros par mois. C'est ce que je me disais qu'il fallait. Donc ça faisait dans ma tête à peu près 350 pour payer le loyer et le reste pour vivre, quoi. Parce que bon, à Berlin, ça coûte pas cher de sortir boire un coup avec des copains. C'est 2 euros pour boire un coup. Pour aller manger un kebab, c'est 3 euros ou 4 euros. Enfin, vraiment... Et puis aussi, il y a plein d'espaces dans lesquels il n'y a rien à payer. Enfin, on peut juste y être et c'est sympa. Et puis on ramène ces trucs du supermarché. Et puis voilà. Et puis en fait, ce budget idéal de 500 euros par mois pour vivre tranquillement, c'est pas possible parce que la chambre que j'ai trouvée à la fin, qui était très bien, hein, vraiment dans un super appart, tout est relatif, j'habitais au-dessus d'une maison close, donc c'est quand même particulier quoi. Mais c'était 450 euros par mois, juste le loyer. Enfin, vraiment, pour avoir un train de vie confortable, plutôt 800 euros, 1000 euros, quoi. Du coup, l'année scolaire en Allemagne commence au mois d'octobre. Donc moi, j'ai décidé d'arriver fin août, histoire d'avoir le temps de trouver un appartement. Parce que avant de partir, c'était impossible de trouver un logement. Donc je suis partie vraiment sans savoir où est-ce que j'allais habiter toute l'année, mais avec la conviction que ce serait très facile de trouver un endroit, parce que ça avait l'air d'être facile pour tout le monde de toute façon, et que le marché de l'immobilier m'avait l'air un peu bouché, mais en même temps, ça m'avait l'air d'être quand même assez fourni. J'avais l'impression qu'il y avait assez d'appartements et de chambres disponibles. Et du coup, j'ai sous-loué une chambre avec une amie qui partait aussi en Erasmus pour un mois. Et à partir de là, on s'est dit qu'on allait réussir à trouver sans trop de problèmes un endroit pour le reste de l'année. Et en fait, c'est pas si facile que ça parce que on est arrivé au moment où tous les gens qui arrivaient, tous les étudiants Erasmus, et il y en a beaucoup de gens qui veulent faire des Erasmus à Berlin. Et donc c'était un échange à la Freie Université de Berlin, donc qui se trouve un peu en banlieue de la ville. Moi, il y avait aussi le fait qu'il fallait que je trouve un travail très rapidement parce qu'en fait, j'avais passé l'été à travailler pour mettre de l'argent de côté. Et que je comptais beaucoup sur la bourse, mais la bourse Erasmus, en fait, je me suis rendu compte un peu tard que je m'étais un peu fait avoir, parce qu'en fait, il y avait marqué qu'on avait à peu près 400 euros par mois pour un échange en Allemagne. Et il s'est trouvé qu'en fait, la bourse de la région Île-de-France a été un peu coupée, et du coup, c'était 160 euros par mois. C'est ridicule quand on peut vraiment pas faire grand-chose avec ça. Donc heureusement j'avais un peu d'économie et mes parents me donnaient un peu d'argent, mais bon ça fallait trouver un travail très très vite. Donc j'étais aide cuisine, donc je coupais des légumes toute la journée et je m'occupais que tout soit bien en place dans la cuisine pour que devant ça aille vite quoi. En fait, au début, j'avais pas compris parce que quand j'y suis allée, c'était des gens qui parlaient allemand, des Turcs qui parlaient allemand et qui m'avaient dit sans doute le prix auquel j'allais être payée, mais j'avais pas compris, donc j'avais dit oui. Et il s'est avéré qu'en fait, c'était 5,50 € de l'heure et ça, je m'en suis rendu compte au moment de la paye, après un mois à temps plein et c'était de l'ordre de 400 euros. Enfin, ça, c'est. Oui, j'ai été payée moins que le minimum légal. Et pendant assez longtemps, quoi. Mais quand je m'en suis rendu compte, j'ai décidé de ne pas y retourner. Après, j'avais vraiment besoin de trouver autre chose parce que ça commençait vraiment à devenir juste et c'était vraiment la panique. Et là, j'ai cherché un peu tout. Et j'ai fait pas mal d'essais dans des restos avec... je me suis heurtée à une sorte de mépris de certains restaurateurs franco-allemands un peu branchés qui expliquent pas le travail, qui considèrent qu'on arrive là et qu'on est censé savoir tout faire, qui m'ont répudié au bout d'une heure et demie sans au revoir, sans merci, sans rien. Un autre truc que j'ai essayé de faire, parce que ça c'est un truc que les Français de Berlin font pas mal, c'est enquêteur téléphonique chez Ipsos. Donc, faut savoir que Ipsos donc a installé une filiale à Berlin pour faire des enquêtes téléphoniques. Et moi, je me suis dit, oh là là, c'est les présidentielles, ça va être hyper intéressant. On va appeler les gens pour savoir leurs opinions politiques. Et donc, je suis allée à la journée de formation avec eux. Voilà, on a fait la formation. Donc, ils nous ont expliqué le statut. En fait, on est des freelanceurs. Donc, on fait les factures qu'on adresse à l'entreprise et on paye notre sécu tout seul. Alors en Allemagne, payer sa sécu tout seul, c'est à peu près 250 euros à 200 euros par mois. Donc il faut quand même gagner pas mal pour que ce soit un peu rentable de bosser en freelance. Et il y a un truc sur le système de paiement qui est vraiment immonde, c'est en gros, soit on choisit d'être payé à l'heure, donc 4 euros de l'heure, soit on choisit d'être payé à la performance, donc au nombre de questionnaires qu'on réussit à faire remplir. Et là, ça peut monter jusqu'à 15 euros par questionnaire. Donc si on arrive à faire 5 questionnaires dans l'heure, c'est bien quoi. Et du coup, j'ai tenu une journée et je me suis dit, mais non, je peux vraiment pas faire ça quoi, d'autant plus pour 4 euros de l'heure, c'est pas possible. En même temps, faut trouver l'appart parce que le premier mois en sous-location, et on a eu de la chance parce qu'en discutant avec quelqu'un dans un bar le long de l'Agepré, on a rencontré quelqu'un qui nous a dit « Ah ouais, moi j'ai un ami, il a son appart juste à côté d'ici, il a 2 chambres libres, si ça vous intéresse, blablabla, blablabla. » Donc un peu méfiante, mais en fait comme on ne trouvait rien d'autre avec mon ami avec qui on est arrivé à Berlin, on s'est dit « Ok, pourquoi pas ?» C'était un peu bizarre parce que c'est du côté de Ostbahnhof, donc c'est dans l'ancien Berlin-Est, là où il y a des tours... un peu bizarre, il y a une drôle d'ambiance là-dedans, enfin c'est assez étrange, ça fait un peu peur quoi, on nous a emmenés là-bas pendant la nuit, enfin on savait pas trop où est-ce qu'on allait, monter les escaliers de cette espèce d'immeuble un peu défraîchi, enfin vraiment l'immeuble soviétique un peu cliché quoi. Et au final on arrive dans un appart avec un type assez sympa qui nous montre les 2 chambres, qui nous explique que là, il les met sur Airbnb, mais qu'il en a marre, que c'est trop de travail et que du coup, il veut les refourguer à temps plein. Et puis comme ça, il est tranquille, quoi. Et lui, il demandait 450 euros par chambre. Donc, c'est quand même une somme, quoi. Et donc, effectivement, après un mois passé dans cet appartement sans trop de grabuches, c'était encore l'été, donc j'étais beaucoup dehors. Un jour, j'ai une amie qui vient à la maison et je décide d'investir le salon. Et mon coloc rentre. Et ça lui a pas du tout plu. Et en fait, il m'a mise à la porte. Donc, je me suis démenée pour trouver un truc très vite. Sachant que, pile poil, à ce moment-là, j'avais un examen à préparer pour la fac. Et qu'en même temps, il a fallu déménager en catastrophe. Donc, traîner tous les sacs dans le métro. Ça, c'était une scène que j'ai vécue plusieurs fois à Berlin, les déménagements en métro. C'est pas marrant quoi d'avoir alors le sac à dos, la valise à roulettes, tous les sacs dans lesquels il a fallu mettre tous les trucs, d'avoir peur d'en oublier un au passage. Enfin, c'est vraiment cette scène-là. Je pense que je l'ai vécue à peu près 6 fois en un an quoi. Et donc voilà, de sous-location en sous-location. Et au final, à la fin, mon amie avec qui j'étais arrivée a réussi elle à trouver une chambre de long terme dans un appart. Et une des personnes avec qui elle habitait est partie. Et elle m'a dit « Oh, il y a une chambre de libre !» Et là, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai eu l'impression en fait, de passer une année dans l'urgence totale. En fait. L'urgence de devoir trouver un travail, l'urgence de devoir trouver un logement, et l'urgence par-dessus tout de devoir suivre les cours à la fac. Et du coup, je me suis sentie vraiment seule sur le campus. À l'université, en général, je me sentais pas soutenue, pas accompagnée. Progressivement, j'ai arrêté d'y aller parce que j'avais tels soucis financiers, matériels, que j'arrivais pas à aller à la fac. Quoi. C'était vraiment pas un espace dans lequel je me sentais bien. Quoi. J'avais l'impression d'avoir plein de sollicitations intellectuelles auxquelles j'étais pas capable de répondre parce que ma situation matérielle faisait que je pouvais pas me concentrer sur l'université et sur l'école, quoi. Enfin, c'était vraiment pas possible. Sur une année complète, je reviens avec 3 cours validés, c'est-à-dire à peu près un cinquième de ce qu'il aurait fallu que je fasse. Je me dis que j'aurais peut-être pu faire plus, mais qu'en même temps, si j'avais fait plus, je serais... si j'avais essayé de faire plus, peut-être qu'il aurait fallu que je rentre parce que j'aurais pas eu assez d'argent. Ou peut-être que j'aurais dormi à la rue quelques nuits. Puis peut-être que j'aurais pas autant pris le temps de regarder la ville, en fait. Finalement, c'est bien, bien trois cours, c'est mieux que rien, quoi. Du coup, j'ai redoublé, enfin, je redouble ma troisième année, et donc je suis revenue à ma fac en France. Et en fait, je suis plutôt contente d'être ici parce que je peux juste étudier sans réfléchir à tout ce genre de choses. Ça m'inquiète beaucoup de me dire que j'ai perdu du temps, ça m'embête de redoubler, et puis c'est pas la première fois en plus. Donc, mais en même temps, c'est vrai que quand je regarde mes camarades qui ont fait leur parcours de façon un peu plus rectiligne que moi, qui ont leur master, etc., ceux qui en tout cas ont fait des études dans le même domaine que moi, c'est un peu... c'est pas facile pour eux non plus quoi, de trouver un truc qui leur plaît, qui soit à leur niveau, qui soit pas un stage. En fin de compte, ça me dérange pas de prendre plus de temps pour mieux savoir ce que j'ai envie de faire et puis aussi pour multiplier les expériences et pas avoir de regrets le jour où finalement je me déciderai à mettre les pieds dans le plat et à trouver du travail.
Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht grad an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons, dass sowas von sowas kommt.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Erasmus Blues, un reportage de Pauline Peretz réalisé par Philippe Baudouin. Merci à Sylvain, à Balint, à Caroline, à Elena, à Cécile et à Angela. C'est Sandrine Chaperon, l'attachée de production des Pieds sur Terre. C'est Céline Autain, notre stagiaire. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast ou bien à consulter les pages de notre site internet franceculture.fr, donc Les Pieds sur Terre.
Dass es einmal so weit kommt, wegen 99 Luftballons, wegen 99 Luftballons. Denk an dich und lass ihn fliehen.